Frères et sœurs, nous avons entendu dans la deuxième lecture de cette messe, très beau passage de l'Épître aux Philippiens, très beau passage qui peut nous interpeller, puisque saint Paul dit des choses fortes, très engageantes. Frères, tous les avantages que j'avais autrefois, je les considère maintenant comme une pure perte. Et nous savons que saint Paul avait donc une position importante dans le judaïsme. À cause de ce bien qui dépasse tout, la connaissance du Christ, Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai tout perdu. Je considère tout comme des ordures afin de gagner un seul avantage, le Christ. Et puis, cette lecture se termine par cet élan du cœur où il dit, eh bien, je cours, je m'élance, je cours vers le but qui m'est donné. Finalement, ce que nous vivons pendant le temps du carême, c'est un peu cet élan pour que nous découvrions vraiment, que nous vivions vraiment du Christ unique, du Christ, de l'amour de Dieu qui est premier, qui doit devenir premier dans notre vie. Que nous puissions découvrir comme saint Paul que tout le reste est pure perte. Je considère même, et c'est si l'Écriture ne le disait pas, nous ne saurions pas le dire, je considère même tout comme des ordures afin de gagner un seul avantage, le Christ. C'est ce que nous vivons en carême, particulièrement, c'est ce que nous sommes invités à vivre donc en ce moment, dans ces jours, et tout ce qui nous occupe, tout ce qui nous préoccupe, tout ce que nous portons dans nos cœurs, eh bien, il nous faut les mettre dans le Christ, devant le Seigneur, et vraiment mettre le Seigneur en premier, en disant que bien, dans ce qui nous préoccupe, c'est le Seigneur qui est notre solution réelle, la solution la plus profonde, la vraie solution. Ça n'exclut pas évidemment de résoudre les problèmes que nous pouvons avoir, mais ça donne dans le fond des choses de vraiment mettre notre confiance en Dieu et d'ordonner vraiment notre vie en fonction du Seigneur et dans un but qui est plus grand que la simple résolution des problèmes, que la simple consolation que nous pouvons vivre sur terre. Et donc, nous sommes tendus vers le but. Alors ce but, c'est Pâques, pour nous qui vivons le carême. Mais au-delà de Pâques, c'est la vie avec Dieu. Le temps pascal, c'est la vie divine, c'est la vie avec Dieu. Le temps de carême, c'est la vie qui nous prépare le chemin où nous cherchons à vivre, un chemin de conversion, un chemin qui nous tourne, qui nous défait du mal et du péché et qui nous tourne vers Dieu. Mais le temps pascal, ce qui fera dire à saint Augustin que le temps pascal est plus difficile à vivre que le temps du carême, que le temps pascal, c'est la vie avec Dieu. C'est de vivre tout dans cette relation à Dieu. Donc c'est le temps de Pâques, mais qui nous mène vers cette vie avec Dieu et vers l'éternité qui nous fait déjà vivre ici-bas des réalités du ciel, celles que nous vivrons à la perfection quand nous ferons le grand passage de notre mort. Et puis pour les catéchumènes, eh bien, c'est tendu vers le baptême, qui est cette expérience, mais au-delà de l'expérience sensible, qui est vraiment cette imprégnation de Dieu dans notre vie. Quand on est baptisé, votre choix, votre oui, votre décision de le suivre, eh bien, va trouver une sorte de réponse comme jamais vous ne l'avez expérimenté jusqu'à présent, puisque par le baptême, Dieu va vraiment rentrer de façon unique et nouvelle dans votre vie, vous libérer du péché, vous donner l'Esprit Saint, puisque vous allez être aussi confirmé et recevoir l'Eucharistie dans la même célébration. Donc vous allez laisser entrer le Seigneur dans votre vie et être intérieurement transformé. Reste évidemment à vous, puisque les sacrements, ce n'est jamais magique, restera à vous de faire fructifier ce don de Dieu durant toute votre vie, et ainsi vous serez, avec tous les autres chrétiens, invités à vivre le temps de Pâques comme cette recherche de vie avec Dieu. En revenant à l'Évangile, Nous avons entendu cet épisode de la femme adultère. Et cet épisode nous en dit beaucoup sur la personnalité de Dieu. Cet épisode est un épisode étonnant. Les scribes et les pharisiens qui sont venus voir Jésus voulaient le piéger. Le piéger en disant il va falloir qu'ils choisissent. On sait que Jésus est bon, qu'il est miséricordieux, ils l'ont vu faire. Là, on va le piéger parce qu'on va le piéger sous le thème de la justice. Il va falloir qu'ils choisissent entre la justice et la miséricorde. Soit il est bon et il n'obéit pas à la loi de Moïse. Et donc, il n'est pas juste, il est injuste et infidèle à la loi de la première alliance. Soit il est juste selon la loi de Moïse et il condamne cette femme. Et dans ce cas-là, il n'est pas miséricordieux comme il le prétend. Donc, il le mettait vraiment dans un dilemme. Pour ma part, j'ai fait un tout petit peu l'exercice de me dire comment j'aurais réagi à la place de Jésus. Comme je ne suis pas Jésus, j'aurais pas bien réagi certainement, j'aurais pas su quoi faire. Et Jésus a trouvé un chemin que, je pense, personne d'entre nous n'aurait trouvé. Ce chemin qui allie à la fois justice et miséricorde. Ce chemin qui fait qu'il va dire, bien celui qui ne mérite pas la lapidation, parce qu'en fait c'est ce que ça veut dire, celui qui n'est pas adultère, dans l'adultère dans la tradition biblique, c'est toute l'idolâtrie, c'est tout ce qui détourne de Dieu, tout ce qui fait que Dieu n'est pas au milieu de nos vies. Celui qui n'est pas pécheur, donc Jésus dira, mais qu'il jette la première pierre. Et donc, personne ne jettera la première pierre, tout le monde partira. En commençant par les plus vieux qui vont commencer à se dire, oui, de fait, j'ai quand même des trucs sur ma conscience. Tout le monde se sentira finalement coupable de cette lapidation et laissera cette femme. Et quand on réfléchit à ce qui va se passer, le seul qui pouvait jeter cette pierre, c'est Jésus, le seul sans péché. Il dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Et en faisant cela, il ne trahit pas la justice, puisqu'aussitôt il rajoute, va et désormais ne pêche plus. Il fait miséricorde, mais en même temps demande à cette femme de changer de vie, de changer sa vie. Donc il est à la fois dans la miséricorde et dans la justice. Et pour que cette justice soit tout à fait accomplie, nous savons que celui qui va mourir à la place de cette femme, c'est le seul juste de la petite assemblée de l'épisode que nous avons entendu. Le seul juste, c'est Jésus. C'est pour cela que nous entendons cet évangile aujourd'hui. C'est que dans 15 jours, Jésus va mourir à sa place, à la place de cette femme adultère. Mais pour être complet, il nous faut aussi nous souvenir que dans le livre du Lévitique, dans la loi de Moïse, il n'est pas dit qu'il n'y a que la femme qui doit être lapidée. Il est dit ceci, Lévitique chapitre 20, verset 10. Quand un homme commet l'adultère avec la femme de son prochain, ils seront mis à mort. L'homme adultère aussi bien que la femme adultère. Alors que se passe-t-il donc ici? Seulement la femme est mise en accusation? Le silence sur l'homme qui n'est pas accusé, qui n'est pas menacé de lapidation, est volontaire pour nous faire prendre conscience de quelque chose, c'est que cet homme, c'est nous. Cet homme, c'est l'assistance, c'est ceux qui sont présents à l'événement. C'est ces personnes adultères, cet homme adultère qui manque, en fait, c'est chacun de nous. Et chacun de nous, nous avons besoin de la miséricorde du Seigneur. Et c'est par miséricorde que nous allons survivre à notre péché. Donc, il y avait dans ce plan un enseignement qui nous était donné dans cette absence de l'homme de l'accusation de l'homme. Et puis encore une fois, je rappelle que cet homme, c'est Jésus qui prendra notre place. C'est Jésus qui va mourir pour nous. Il va se faire pécher, il va prendre le péché pour mourir à notre place, satisfaire un peu, si on peut parler comme cela, satisfaire la justice pour nous libérer du péché gratuitement dans la miséricorde infinie de Dieu. Dieu va mourir pour nous. Le but de Dieu qui prend chair, qui devient un homme en Jésus-Christ, c'est pour nous libérer. Pour nous libérer totalement. Pour prendre sur lui le mal. Pour prendre sur lui le mal et pour nous libérer de ce mal. Et reste à nous, comme je le disais au début de cette célébration, au début de l'homélie, reste à nous de vivre selon les lois du Christ mort et ressuscité. Reste à nous de vivre transformés par ce salut, par cette mort de Jésus à notre place. Et merci Seigneur, nous ne pouvons être que pleins de gratitude. Et cette résurrection qui nous donne la vie divine, la vie éternelle, qui donne la vie aux futurs baptisés, aux baptisés, le jour du baptême, et qui donne la vie à chacun de nous qui sommes ici. Voilà. Alors comment bien continuer à nous préparer à cette fête de Pâques pour que ce ne soit pas simplement une célébration plus ou moins superficielle ? Comment bien nous préparer ? Eh bien, alors que jusqu'à présent, pendant le temps du carême, nous avons examiné nos vies, essayé de voir des points d'attention, des points de conversion à vivre, des efforts que nous avons cherché à faire, eh bien, il nous faut désormais, avec ce début du temps de la Passion, avec cet évangile, fixer notre regard sur le Sauveur, sur celui qui prend tout sur ses épaules, sur Jésus. Fixer notre regard sur lui. Le temps de la Passion, dans 8 jours, la fête des Rameaux, et ensuite la Semaine Sainte, le temps de la Passion, c'est le temps où nous détournons notre regard de nous. Et Dieu sait que nous avons bien des choses à regarder en nous, toujours pour nous tourner notre regard sur lui. Le contempler, le connaître davantage, comme cette femme qui attend la miséricorde, comme cet homme absent que nous sommes, cet homme absent de l'épisode de l'Évangile, qui attend la miséricorde de Dieu et qui regarde vers l'unique qui est sans péché. Et donc, tourner notre regard vers Jésus. Et je vous encourage, si vous le pouvez, c'est à lire le récit de la Passion dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent. On va l'entendre dimanche prochain, on va l'entendre vendredi saint, mais le récit de la Passion, c'est important de le méditer, de le lire tranquillement chez soi. Lisez-le, voyez combien Dieu vous aime. Il le fait, il meurt, il vit sa Passion pour chacun de nous personnellement. Chacun personnellement. S'il n'y avait eu qu'un, moi, vous, s'il n'y avait eu qu'un pour lequel il aurait dû le vivre, il aurait vécu cette Passion. Il l'a vécu pour chacun de nous. Voilà. Et je veux terminer par cette prière de saint Ephrem, que je vous ai déjà lue à d'autres occasions. Seigneur et Maître de ma vie, ne m'abandonne pas à l'esprit de paresse, de découragement, de domination et de vain bavardage. Mais fais-moi la grâce, à moi ton serviteur, de l'esprit de chasteté, d'humilité, de patience et de charité. Oui, Seigneur, Roi, accorde-moi de voir mes fautes et de ne pas condamner mon frère. Ô toi qui es béni dans les siècles. Amen.